considéré comme un drogué. Alors c'est bon, ben boum, j'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon.
Trio, la main verte, ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité, donc pourquoi je vous passe ce morceau? Parce que voilà, comme je vous disais, c'est le printemps, et il est venu le temps de, je sais pas, voilà, vous comprendrez bien. Donc, allez, on continue notre petite revue de presse. Déjà la semaine dernière, on vous parlait de ces quelques journaux, de la presse quotidienne régionale qui s'intéressait... au cannabis, mais il n'y a pas que la presse quotidienne régionale, il y a aussi par exemple RTL.be, alors ça se passe là pour le coup en Belgique, mais localement, il y a aussi tout un tas de personnalités, d'experts, de médecins, d'acteurs civils, de la société civile, qui commencent à se poser pas mal de questions sur le bien fondé de cette prohibition des drogues qui n'en finit plus de durer et qui se demande si un jour on va pas quand même changer de paradigme à partir du moment où on sait bien les résultats qui sont provoqués par ces politiques répressives. Voilà. Alors là, ça se passe donc en Belgique, comme je vous disais, c'est intitulé « Le cannabis bientôt en vente libre chez nous ». Voilà. Les dealers vendent des produits de plus en plus mauvais qui ne sont pas contrôlés. Voilà ce que déclare un des acteurs. En tout cas, voilà un peu les questions qui peuvent se poser dans cet article de RTL.be. Pourrons-nous acheter bientôt du cannabis en toute légalité dans une pharmacie ou un magasin? Donc, question qui est posée sur le plateau de... C'est pas tous les jours dimanche qui se tenait, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant, donc le dimanche 26 avril. Donc, je dirais que c'est un peu pareil qu'en France. Hein. Globalement, on a plutôt les écolos favorables à la vente... alors là, on nous dit la vente libre du cannabis en Belgique. On nous dit aussi dans cet article qu'il y aurait le PS aussi qui serait d'accord. Je ne sais pas si là on peut dire que c'est pareil qu'en France, parce que globalement le PS est plutôt contre, même si son représentant pour les élections, Monsieur Hamon, lui, est plutôt pour. Voilà. Alors, Julien Huitindel, qui est là, député socialiste, il explique les raisons de cette position. Il dit que voilà, je crois qu'on peut partir d'un constat clair. C'est que la politique prohibitionniste qui fonctionne depuis 50 ans n'a jamais atteint les objectifs fixés. C'est-à-dire diminuer le nombre de consommateurs, a fortiori dépendants, et diminuer l'accessibilité des produits et assécher les réseaux criminels. Actuellement, le cannabis, dit-il, hein, n'a jamais été aussi accessible, par ailleurs, d'une très mauvaise qualité, et on n'a jamais autant consommé, et de plus en plus jeune. Voilà ce que dit donc Julien Huitindel, hein, ce député socialiste. Faut rappeler quand même que la Belgique était plutôt, en avance au début des années 2000, a fait plusieurs pas en arrière ces 3-4 dernières années, et ils en sont à un niveau légal aujourd'hui qui est très comparable à celui de la France. Je crois qu'ils ont peut-être un peu moins d'interpellations que nous, mais ça reste à prouver. Donc toujours dans cet article, hein, on apprend d'après les statistiques européennes que le nombre de jeunes qui fument ou fument du cannabis a beaucoup augmenté entre 2001 et 2008. On aurait aimé savoir ce qu'il en est entre 2008 et par exemple 2015, mais non. Là, l'article va pas plus loin. Enfin, dans cet article, ils sont pas allés plus loin, alors que quand même, on a des sources un peu plus récentes. Bref, on apprend également. Alors c'est les écologistes, hein, qui prennent la parole. Là, c'est Muriel Gerkens qui est députée fédérale écolo et souligne l'échec aussi de la politique répressive actuelle. Et elle dit, il y a des dealers, des trafiquants qui se font beaucoup d'argent sur le dos des consommateurs en leur vendant des produits de plus en plus mauvais et qui ne sont pas contrôlés puisque l'on ne régule pas la production et la vente, regrette-t-elle. Voilà. Alors après, bien évidemment, il y a toujours des opposants. Hein. D'ailleurs, les opposants belges ont à peu près, je dirais, des arguments assez similaires aux opposants français qu'on peut trouver dans l'Hexagone. Donc là, il y en a un, c'est un professeur à la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, Paul Verbank, et qui dit « Un utilisateur de cannabis qui développe des troubles mentaux importants vit 20 ans de moins ». Alors, je ne sais pas dans quelle étude il a pioché ça. C'est quand même aussi un ancien directeur de l'Institut de psychiatrie de psychologie du CHU de Brugmann. Mais on a aussi un député de droite, Damien Thierry, qui estime que la répression est nécessaire et il se dit contre la dépénalisation simple du cannabis car ce n'est pas la solution. Oui, certes, c'est peut-être pas la solution, mais la dépénalisation, c'est pas la solution, c'est clair. Simple, je ne sais pas ce qu'il entend. En tout cas, la prohibition, c'est sûr, ça, sûr et certain, ce n'est pas la solution non plus. Et donc, puisque la prohibition et donc la répression n'est pas la solution, et puisque la dépénalisation ne peut pas être une fin en soi et donc n'est pas une solution, quelle est donc la solution, monsieur le député fédéral Damien Thierry ? Ah bah ça, il nous le dit pas, bien évidemment. Ce que proposent en général ces gens, c'est le statu quo, donc c'est toujours le maintien de la prohibition, qui font leur chou gras. De plus en plus de gens, d'ailleurs, se demandent si les prohibitionnistes sont pas les alliés objectifs des trafiquants. Voilà. À partir du moment où on veut rien changer, ben faut pas s'étonner après que... on se retrouve avec des méga affaires de corruption, genre l'affaire de l'OCRTIS, l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants en France, et de son directeur qui a passé un petit peu de temps en garde à vue jusqu'à présent, et dont on a bien parlé la semaine dernière, et qui, je vous le rappelle, a, avec son administration, contribué à l'importation d'une quarantaine de tonnes de cannabis en France. Et là, je rajouterais, je me trompe peut-être, mais en tentant de faire porter le chapeau à son indic. Voilà, parce que c'est quand même un peu ça qui est en train de se dessiner. Mais donc voilà, à côté de ça, ces gens qui ces politiques qui pensent qu'il ne faut surtout pas dépénaliser ou ne surtout rien changer, voilà. Bon, n'assument finalement pas tous leur position prohibitionniste. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser un peu au Canada. Alors, tout d'abord, on va se pencher sur cet article de la version canadienne du HuffPost, du HuffingtonPost.ca, où là, on nous reparle voilà, du gouvernement canadien, du Premier ministre Justin Trudeau, qui donc prévoit d'annoncer le mois prochain, donc ça sera donc courant avril, prévoit d'annoncer donc une prochaine loi de légalisation de la marijuana au Canada, pardon, et cette loi devrait se mettre en place d'ici le 1er juillet 2018. Eh oui, 2018, et pas dans le courant de cette année, comme on avait cru, comme on pensait le croire, parce qu'on en avait parlé, je crois que c'était en fin d'année, apparemment ça devait se faire dans le courant de l'année 2017, mais ce n'est toujours pas prévu à court ou moyen terme, voilà. Ça prend un peu de temps, je pense, parce que ils ont envie de faire les choses quand même à peu près correctement, n'en déplaise aux pro-légalisation canadiens. Je pense à Marc Boris Saint-Maurice, hein, dont on va parler un peu dans cet article, et qui est un militant de longue date et bien connu au Québec. Mais je pense que ceux qui sont les plus amers et déçus, c'est quand même le couple Emery, Marc et Jody Emery. Parce que eux, en tout cas, enfin Jody Emery, en tout cas, avait prévu d'adhérer au Parti libéral du Canada si effectivement le parti annonçait qu'ils allaient légaliser. Et sauf que ça met du temps et elle est pas contente, Jody Emery. On peut la comprendre. Elle dénonce la nonchalance des libéraux dans le dossier. Et même elle commence à dire que le gouvernement a menti aux électeurs, a menti aux Canadiens et qu'il risque de ne pas légaliser. Alors bon, je sais pas si on peut aller aussi loin, mais en tout cas ça pose question. Donc pour essayer de faire les choses quand même correctement, eh bien les politiques prévoient de s'appuyer sur des recommandations d'un groupe de travail qui va être présidé par l'ancienne ministre libérale de la justice Anne McLellan, également mandatée par le gouvernement fédéral donc pour étudier ce dossier. Le plan de déploiement du programme et l'ébauche de la loi ont été présentés aux députés libéraux récemment, notamment par le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, hein, dans le cadre de la réunion du caucus du parti qui avait lieu à Ottawa, pardon, la semaine dernière, le week-end dernier, pas celui-là, mais celui d'avant. Et M. Bill Blair, qui a déjà été chef de la police de Toronto, pilote le dossier sur la marijuana pour le compte du gouvernement Trudeau. Voilà. Le gouvernement fédéral sera responsable de s'assurer que les produits sont sûrs et sans danger. Mais c'est également Ottawa donc, qui s'occupera d'attribuer les licences aux producteurs. Voilà. Mais le projet de loi prévoit aussi que les provinces auront le droit de décider comment la marijuana sera distribuée et vendue. Ces provinces pourront aussi établir les prix de vente. Mais le gouvernement fédéral entend quand même fixer à 18 ans l'âge minimum pour acheter du cannabis, mais les provinces auront la possibilité d'ajuster la limite d'âge. Je doute qu'ils autorisent les jeunes en dessous de 18 ans, à pouvoir s'en procurer, mais peut-être qu'ils pourraient fixer la limite d'âge à 21 ans, par exemple. Ça pourrait tout à fait être le cas. Les Canadiens qui souhaitent cultiver de la marijuana devront surveiller leur production. Et en vertu du projet de loi, le nombre de plants autorisés sera limité à 4 par ménage. Voilà un peu où on en est jusqu'ici. Donc comme je disais, cette légalisation, c'était un des projets phares du Premier ministre Trudeau dans le cadre de sa dernière campagne électorale. Ils avaient plusieurs fois expliqué et argumenté sur le fait que légaliser, réguler et restreindre l'accès à la marijuana dans le but d'empêcher que la drogue tombe entre les mains des enfants et les mains des criminels pour qu'ils en tirent profit. Donc ils avaient quand même promis de présenter la première ébauche du projet de loi d'ici le printemps 2017. Bon, on va dire que globalement, ils sont à peu près dans les temps. Mais pour en revenir aux militants, et notamment à Marc Boris Saint-Maurice, qui est un militant bien connu québécois, qui lui est depuis toujours favorable à une légalisation, et pas une dépénalisation, mais une légalisation de la marijuana, et se réjouit quand même que... de la décision du Premier ministre, tout en trouvant, je cite, « ambitieux l'intention de légaliser d'ici au 1er juillet 2018 ». Voilà. Donc Marc-Boris Saint-Maurice, qui est également directeur d'un centre de distribution de cannabis médical à Montréal, fait quand même remarquer que la réussite de ce plan dépend au premier chef des provinces pour sa mise en œuvre. Or, nous dit-il, et il pose la question, qu'arrive-t-il si une province dit non ? On participera pas. Et ouais, qu'est-ce qui va se passer ? Alors sans pour autant remettre en question le fait que les provinces soient impliquées, Marc-Boris Saint-Maurice déplore quand même que les différences qu'il risque d'y avoir entre elles quant à la mise en œuvre de la loi puissent créer des déséquilibres et une iniquité à travers tout le Canada. Voilà. Donc, on va voir comment s'y prend l'administration Trudeau. Je ne sais pas si on peut leur faire confiance. Nous-mêmes, nous ne sommes pas Canadiens, nous ne vivons pas là-bas. C'est vrai qu'on connaît assez peu ces politiciens-là. Bon, je pense qu'on peut quand même leur faire confiance pour au moins mettre en place quelque chose d'ici l'année prochaine. Voilà, on va voir s'ils tiennent le calendrier. Toujours au sujet du Canada, mais là, ça se passe dans lapresse.ca. Un article qui nous raconte que les maires des régions en fait ont des opinions assez divergentes concernant ce projet de loi relativement à la légalisation. Donc effectivement, les craintes avancées par Marc Boris Saint-Maurice sont légitimes quoi. En fait, effectivement, on peut se poser des questions. Par exemple, là je cite toujours dans cet article, c'est un maire, le maire des Haies, qui a fait l'objet d'une polémique parce qu'il a déclaré il y a quelques semaines, alors qu'on voyait dans une vidéo, on le voyait dans une vidéo en train d'expliquer à des jeunes son opinion sur le sujet, et il affirmait qu'il avait bien hâte que le projet de loi soit adopté afin qu'il puisse finalement consommer cette drogue sans devoir se cacher. Donc ouais, au moins un maire qui au moins assume et qui fait un peu son petit coming out. Donc il a été interrogé par des journalistes du Nouvelliste sur les propos qu'il a tenus dans cette vidéo. Et il disait que c'était une mauvaise blague, donc en fait il assume pas. Et il a nié être un consommateur de cannabis. Non, il assume pas quoi, parce que je pense quand même que s'il dit quelque chose comme ça, c'est pas pour rien. La vidéo bien sûr a été publiée dans les médias, ça l'a pas forcément refroidi à exprimer son opinion sur cet enjeu. Il dit finalement, je ne veux pas revirer de bord, je me suis toujours présenté en disant que j'étais pour. Voilà. Bon, visiblement, c'est pas si simple hein, pour tous ces élus à admettre, à tout. Ouais. Un autre maire, le maire de Schwanigan, lui, il est par contre, il est pas du tout chaud à l'idée de voir l'usage récréatif du cannabis légalisé. Hein. Voilà. Il dit comme ça, je comprends qu'il faut combattre le crime, mais je ne crois pas que c'est de cette façon l'on peut réussir à le faire. Ça entraînera également des problèmes sur les routes, et on en a déjà assez avec l'alcool, dit-il. Et donc, si le cannabis devait être régulé et autorisé, il a dit qu'il utiliserait tous les moyens qui seraient mis à sa disposition par l'administration municipale afin qu'il encadre le plus possible la consommation et la vente de produits de la marijuana sur le territoire de la ville qu'il dirige. Voilà. Il rappelle aussi dans cet article qu'il préside la commission de la sécurité publique de l'Union des municipalités du Québec et que cette dernière s'est déjà prononcée de façon informelle contre un tel projet de loi. Vous voyez, donc ça fait quand même des dissensions. Un autre maire, celui de Trois-Rivières, tient également un discours similaire à celui de son homologue Schwaniganais. Voilà. Voilà, on voit bien que finalement au Québec, au Canada, tout le monde n'a pas le même point de vue et qu'il y en a quand même qui sont pas d'accord. On suit toujours cette affaire canadienne parce que ça va quand même finir par arriver et que quand même là, si ça se passe au Canada, la légalisation. Ça mettra encore une pression supplémentaire sur les États-Unis qui ont déjà vu dans leur jardin du sud de l'Amérique l'Uruguay légalisé dernièrement. D'ailleurs, un petit coup de chapeau à José Mujica qui était le président et qui est malheureusement décédé il y a très peu de temps. Donc on lui rend hommage. Mais voilà, José Mujica qui était donc le président uruguayen qui avait légalisé le cannabis. Est décédé récemment. Voilà. Donc, bon, en tout cas, les États-Unis vont se retrouver un peu pris en étau avec le Canada au nord et l'Uruguay, même si c'est un tout petit pays au sud, mais aussi d'autres pays d'Amérique latine qui annoncent qu'ils vont modifier leurs lois quant aux drogues. Voilà. Donc, ça peut quand même faire accélérer les choses et ça peut peut-être faire hésiter Trump sur son projet d'envoyer les fédéraux dans les États qui ont légalisé. Et notamment dans les boutiques qui vendent du cannabis récréatif. Parce que bon, il a dit qu'il n'était pas défavorable aux thérapeutiques, mais que quand même le récréatif, c'est mal. Voilà, on va voir ce qu'il fait aussi à ce niveau-là. Bon, allez, un peu de musique et on revient tout de suite après.
Champ de ganja, c'est le plus grand envahisseur que l'humanité a subi. Il ne fait pas couler le sang, mais plutôt ouvrir les esprits. Quand t'épiles sa fibre avec ses milliers de fonctions, quand t'efface la substance en pleine prohibition. Cannabis can, l'agriculture bretonne. Et pour cannabis can, la culture rayonne. Cannabis can, regarde le breton devant toi. Sous ses palerbes repousse bien, c'est l'inverse d'Attila. Cannabis can, l'agriculture bretonne. Et pour cannabis can, la culture rayonne. Cannabis can est devenu West Indian. Sous ses palerbes repousse bien, c'est l'anti-Gengis Khan. Avec la fibre, tu t'habilles de haut en bas. Et tu isoles ta maison du froid. Tu veux te faire belle, ils donnent des cosmétiques. Tu peux même en manger cannabis canne et diététique. Pour avoir bon appétit, c'est l'idéal de consommer cannabis canne sans que ce soit fatal. La substance qui fait scandale, sans en faire l'apologie, n'a pas le dose létale. Cannabis canne, l'agriculture bretonne. Et pour cannabis canne, la culture rayonne. Cannabis canne, regarde le breton devant toi. Sous ses palerbes repousse bien, c'est l'inverse d'Attila. Cannabis canne, l'agriculture bretonne. Et pour cannabis canne, la culture rayonne. Cannabis canne est devenu West Indian. Sous ses palerbes repousse bien, c'est l'anti-Gengis Khan.
synthétiques et toutes leurs saloperies ont prospéré au détriment de l'écologie. Mais cannabis canari, pour eux c'est bientôt fini. Il est passé par ici, il repassera par là. Le cannabis canon ne l'arrête pas. Partout en Europe, il sévit déjà. Et la France est cernée par les champs de ganja. C'est le plus grand envahisseur que l'humanité a subi. Il ne fait pas couler le sang, mais plutôt ouvrir les esprits. Côté pile, sa fibre avec ses milliers de fonctions. Côté face, la substance en pleine prohibition. Cannabis can, l'agriculteur bretonne. Et faux cannabis can, la culture rayonne. Cannabis can, regarde le breton devant toi. Sous ses palerbes repousse bien, c'est l'inverse d'Attila. Cannabis can, l'agriculteur bretonne. Et faux cannabis can, la culture rayonne. Cannabis can est devenu West Indian. Sous ses palerbes repousse bien, c'est l'antigène biscan. Cannabis can est devenu West Indian. Tous ces palerbes repousse bien, c'est l'antigène Iskan.
Voilà, voilà, on vient de s'écouter Cannabis can de Rastabigood. Voilà, maintenant on va s'intéresser à une interview qui a été recueillie par Charlotte Bozonnet dans lemonde.fr, intitulée « Une grande partie de l'argent du hashish ne profite pas à l'économie marocaine ». C'est une économiste et sociologue, Kenza Afsahi, qui explique ce que ne dit pas le rapport d'État américain. Donc il répond à une interview du Monde, en fait, parce qu'il y a un rapport du département américain, d'État américain, qui a fait grand bruit dernièrement, affirmant que la production de cannabis au Maroc équivalait à 23% du produit intérieur brut, qui s'est élevé en 2016 à 100 milliards de dollars, 93 milliards d'euros. Un chiffre considérable lancé comme un écran de fumée qui masque des réalités complexes en termes de culture et de transformation de la matière première. Donc Kenza Afsahi, elle est sociologue et économiste, chercheuse au centre Émile Durkheim, rattachée au CNRS, maître de conférence à l'université de Bordeaux et chercheuse associée au CESDIP de Versailles-Saint-Quentin et au centre Jacques Berck de Rabat. Et elle a réalisé sa thèse sur la culture du cannabis au Maroc. Et donc elle répond à quelques questions, je vais vous lire une bonne partie de l'interview parce que c'est très intéressant. Et donc voilà, le chiffre spectaculaire vous paraît-il crédible, hein, ce fameux chiffre de 23% du produit intérieur brut, voilà, que la production de cannabis serait équivalente à 23% du PIB marocain. Alors elle dit quand même, voilà, la production de cannabis occupe une place importante dans l'économie du Maroc, mais ce chiffre doit être pris avec précaution. Il est issu du dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, hein, qui estime la production de hashish ou de résine de cannabis au Maroc à 700 tonnes. Le rapport du département d'État parle, lui, de 700 tonnes de cannabis qui, une fois transformées en résine, seraient potentiellement équivalentes à 23% du PIB. Il y a là une première confusion, dit-elle, entre cannabis à l'état brut et cannabis transformé en résine. D'autre part, on ne sait pas si l'estimation de la production de résine est faite sur la base du volume des saisies effectuées par les services de police et de douane au Maroc et à l'international, ou sur la base de l'estimation des surfaces cultivées de cannabis. Dans les deux cas, dit-elle, la méthodologie, qui n'est pas expliquée, est imprécise. Ah bon, d'accord, alors est-ce que ça vous semble refléter la réalité ? Elle répond, bah non, car elle est bien plus complexe. Hein. Par exemple, entre 2003 et 2005, l'ONUDC et le gouvernement marocain ont réalisé des enquêtes conjointes sur les surfaces cultivées et la production de résine, avec une méthodologie connue et détaillée. Mais ces enquêtes ont cessé depuis 2006. Or, la culture du cannabis au Maroc a connu des changements ces 10 dernières années. La diminution des surfaces cultivées s'est accompagnée de l'introduction de nouvelles variétés hybrides importées d'Europe au rendement et au THC et au taux de THC plus élevé. Ces nouvelles variétés sont beaucoup plus gourmandes en eau, en engrais et en pesticides et nécessitent des nouvelles techniques de culture et demandent davantage de main-d'œuvre. Leur rendement n'est pas non plus assuré parce que certains cultivateurs ne maîtrisent pas encore le savoir-faire lié à ces hybrides et que les sols sont épuisés par des années de surexploitation de la culture du cannabis. Enfin, le prix de la résine de cannabis à la consommation en Europe est beaucoup plus élevé que le prix à la ferme chez les paysans du RIF. Et une grande partie des recettes du marché du hashish profite à l'étranger et pas à l'économie marocaine, encore moins aux paysans dont une partie vit dans une grande précarité. Nous en avions déjà parlé, il y avait déjà eu quelques articles à ce sujet. Alors, au-delà de cette estimation chiffrée, le Maroc est présenté comme le premier producteur et exportateur mondial de cannabis. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Eh bien, cette assertion alimente régulièrement le débat public parce que le haschich marocain est exporté massivement vers l'Europe et que, selon les services de police et de douane, notamment européennes, la majorité du haschich saisi dans le monde proviendrait du Maroc. Mais c'est là aussi une information à prendre avec précaution. D'abord, la répression du trafic du haschich est plus développée entre les deux rives méditerranéennes qu'elle ne l'est dans d'autres régions du monde. Ensuite, les estimations d'autres pays producteurs importants à l'échelle mondiale, l'Afghanistan ou même le Liban et l'Inde, qui seraient de plus petits producteurs, ne sont pas fiables. Ce qui ne permet pas d'avoir de réels points de comparaison. Enfin, les pays industrialisés sont devenus d'importants producteurs de cannabis, pour l'herbe en tout cas. Un phénomène qui a débuté il y a une dizaine d'années et qui va se renforcer avec la probable légalisation dans plusieurs pays. Que le Maroc soit ou pas le premier producteur au monde n'est pas le plus important. Compte tenu des changements dans le marché mondial et de la concurrence européenne, l'accent devrait plutôt être mis sur l'incertitude quant à l'avenir de milliers de familles de paysans déjà incriminés et marginalisés, qui dépendent fortement de cette économie dans le RIF. Le rapport du département américain et plus globalement les rapports d'expertise internationaux sur le cannabis au Maroc est un bon exemple de l'inégalité de traitement entre les États occidentaux et les pays du Sud. Les pays du Nord débattent de la légalisation du cannabis en se concentrant sur la santé publique de leur population en matière de consommation de drogue, tandis que les pays du Sud sont stigmatisés et contrôlés à travers la publication des chiffres sur la production et le trafic. Le RIF est la principale région de production, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Aujourd'hui, le RIF est la seule région de culture de cannabis et de production de résine. Il y en a eu d'autres par le passé. Au XXe siècle, la France, à travers la Régie des tabacs et du kif, a introduit et développé la culture du cannabis, notamment à Beni Mellal, dans le Haouz, et à Ouazzane. Par ailleurs, le produit est destiné au marché international, mais aussi national. Tout n'est pas exporté, hormis dans la région du RIF. La consommation au Maroc est importante. Elle est toutefois peu connue, car il n'y a pas eu d'études réalisées sur ce sujet. La culture du cannabis est une source de revenus pour de nombreux agriculteurs marocains, mais le pays peut-il se passer d'une telle source de revenus hein ? Et elle répond, si on veut faire évoluer la situation, les acteurs étatiques et les organisations doivent mettre en place une stratégie sur le moyen et le long terme en concertation avec des acteurs locaux. C'est ce qui manque aujourd'hui. Pourtant, le Nord est devenu la deuxième région la plus riche du Maroc alors qu'elle était extrêmement marginalisée sous le règne du roi Hassan II. Sous l'égide de Mohamed VI, certains pôles ont été mis en valeur. Tanger, Med, Tétouan, Chefchaouen, Taounat, Taza, etc. Mais l'espace historique de culture du cannabis ne profite pas de ce développement en raison notamment du très fort enclavement de ces zones montagneuses. Les autorités ne peuvent pas y supprimer la culture de cannabis car les populations sont convaincues que la terre est impropre à toute autre culture. Répondre à cela demande de la créativité, de la concertation et le désenclavement de ces zones. La région a un réel potentiel entre montagne et mer avec des parcs régionaux et pourrait connaître un développement touristique durable et écologique. Mais alors, la légalisation du cannabis peut-elle être une solution ? Le débat sur la légalisation de la culture du cannabis pour des usages textiles, chanvre par exemple, et pharmaceutiques a été lancé par des acteurs associatifs, puis repris par des partis politiques. Le projet de légalisation n'émane pas des acteurs locaux. Les paysans y sont opposés ou s'interrogent sur ces enjeux. Par exemple, ils craignent qu'après avoir été sous l'emprise des trafiquants, ils soient désormais sous celle des lobbies pharmaceutiques ou que la légalisation profite à d'autres régions agricoles où il y a moins de problèmes d'eau, où les terrains sont plus fertiles et moins accidentés. Quoi qu'il en soit, le fait que les Marocains discutent de l'avenir du cannabis dans le pays est une très bonne chose à la condition que les personnes les plus concernées, paysans, consommateurs, soient au cœur des débats. Le fait que la plupart des acteurs soient considérés comme des illégaux complique cet accès à la négociation. Quelle est la stratégie adoptée jusqu'ici par les autorités vis-à-vis de ce phénomène alors ? Avant 2001, tous les projets de cultures alternatives au cannabis financés par l'Union européenne ont échoué. Globalement, de 2003 à 2011... date des printemps arabes, la stratégie a été l'éradication et la limitation des surfaces cultivées autour du centre historique. Depuis quelques années, les autorités se sont concentrées sur la répression du trafic au-delà de l'espace de culture de cannabis et les saisies se sont multipliées. En matière de développement, des projets de décloisonnement des routes communales ont été réalisés sans réelle retombée. Malheureusement, les grands projets de développement dans les provinces situées autour des espaces de culture ne semblent pas profiter aux cultivateurs et ces espaces restent encore marginalisés et sous-développés. Mais alors, les autorités marocaines sont dans la protection du territoire contre la menace terroriste. Comment expliquez-vous qu'elles ne parviennent pas à faire face à ce trafic ? Et là, elle répond, mais les autorités marocaines sont efficaces dans le RIF. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas de violence et de conflits liés à la drogue ? Et puis, on ne réprime pas le trafic lié à une activité traditionnelle ancestrale, comme on réprimerait des filières terroristes. Malgré l'internationalisation des échanges du cannabis, cette économie est restée profondément ancrée dans le local, avec un savoir, des acteurs, des conventions qui lient le pouvoir aux cultivateurs. Grâce au contrôle des autorités, la formation des réseaux de commercialisation n'a pas abouti à des réseaux menaçant la sécurité de l'État et il n'y a pas de conflit majeur dans le RIF à ce jour. Voilà, donc pas mal de choses quand même assez nouvelles qu'on apprend dans cet article, mais d'autres pas moins nouvelles, voilà, comme le fait que les autorités s'accommodent quand même au niveau local des acteurs de la production du cannabis. Tout en empêchant des réseaux de commercialisation puissants de voir le jour, des lobbies en fait, voilà. Donc, ce qui reste quand même intéressant. Il nous reste 10 minutes, un peu moins de 10 minutes avant la fin de l'émission. Je crois que je ne vais pas remettre un morceau de musique, sinon on n'aura vraiment pas le temps de parler d'autre chose. Je voulais absolument vous parler de cet article dont on n'a pas parlé, qui date de la mi-mars, qui est un article qui a été publié dans Contrepoint, intitulé « Comment le Portugal a gagné la lutte contre la drogue en ne la menant pas ». Un article écrit par Abigail R. Hall, qui est membre de la fondation Foundation for Economic Education. Et là aussi, je vais vous lire l'article. Depuis plus de 100 ans, les États-Unis cherchent à interdire la consommation de drogue. Les partisans de la prohibition affirment qu'en rendant illégales des substances comme le cannabis, la cocaïne et l'héroïne, l'État peut significativement réduire la criminalité liée à la drogue, combattre la toxicomanie et arrêter la propagation des maladies liées à la consommation de stupéfiants. Cette politique n'a pas eu les effets escomptés. Et Michael Botticelli, directeur du bureau de la politique nationale du contrôle des drogues, a déclaré que la guerre contre les drogues était constituée d'échecs politiques et pratiques. Parmi les alternatives à la guerre contre la drogue, il existe l'option de la dépénalisation des drogues, c'est-à-dire l'assouplissement de l'application de la loi et sanctions pour les infractions liées à la drogue et la légalisation de toutes les drogues. Oui, toutes les drogues. Ces options peuvent sembler contre-productives, mais les données racontent une toute autre histoire. En 2001, le Portugal a choqué le monde en votant la dépénalisation de toutes les drogues en réponse à un problème croissant d'héroïne. Le trafic de drogue demeure illégal, mais les consommateurs de drogue sont considérés comme des malades plutôt que comme des criminels. Au lieu d'une arrestation et d'une incarcération immédiate, les personnes prises avec moins de 10 jours d'approvisionnement en drogue dure sont conduites devant un tribunal spécial d'experts illégaux, de psychologues et de travailleurs sociaux. Le but est d'arriver à une solution qui s'occupe d'abord de la santé du patient avec une petite amende occasionnelle ou un travail d'intérêt général. 15 ans plus tard, la catastrophe prédite par de nombreuses personnes est démentie par les données. La consommation de drogue parmi les jeunes de 15 à 24 ans a considérablement diminué et les décès dus à la drogue sont tombés de 80 en 2001 à 16 en 2012. Avant 2001, près de 100 000 consommateurs de drogue étaient condamnés au Portugal. Dans les 10 premières années de l'adoption de la politique, ce nombre a été divisé par 2. Aujourd'hui, le Portugal possède l'un des taux de consommation de drogue les plus faibles de toute l'Europe. N'en déplaise à M. François Fillon, qui dernièrement avait déclaré que dans des pays où c'était dépénalisé, on avait un taux de consommateurs beaucoup plus élevé qu'en France. Ce qui est faux, Monsieur François Fillon, vous devriez plutôt vous intéresser aux données sociales, sociologiques et scientifiques qui parlent de l'usage de drogue et notamment qui parlent des pays qui ont modifié leur législation et vous auriez au moins une culture à ce sujet et donc des informations importantes et intéressantes à délivrer à vos électeurs, ce qui n'est pas le cas puisque vous racontez toujours n'importe quoi sur le sujet. Voilà. Alors revenons à notre article. Les gens quittent le marché des drogues et cherchent un traitement. Au Portugal toujours, le nombre de personnes enregistrées en réhabilitation est passé de 6000 en 99 à plus de 24000 en 2008. Le nombre de consommateurs d'héroïne qui se piquent est passé de 45% à 17%, ce qui est particulièrement important lorsque l'on parle de maladies liées à la drogue. Ainsi, les toxicomanes ne représentent plus que 20% des cas de VIH dans le pays, une amélioration significative par rapport aux 56 précédents. Ces résultats peuvent être expliqués par des considérations économiques de base. À mesure que les gens obtiennent de l'aide pour combattre leur addiction à la drogue, le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire la demande de drogue, diminue. Ouais, forcément, lorsque la demande baisse, les fournisseurs de drogue constatent que leur entreprise autrefois lucrative ne rapporte plus d'argent et donc ne porte plus ses fruits et ils sortent donc du marché. Cela expliquerait pourquoi une étude de 2010 publiée dans le British Journal of Criminology a révélé, d'après la dépénalisation, qu'après la dépénalisation, le Portugal a observé une réduction significative de l'emprisonnement de prétendus trafiquants de drogue de 14 000 en 2000 à 5 000 en 2010. En fait, la proportion de personnes incarcérées pour crimes commis sous l'influence de stupéfiants ou pour nourrir leur addiction a chuté de 41% en 1999 et à 21% en 2008. En réorientant les ressources précédemment allouées à l'arrestation et à la mise en prison de toxicomanes, le Portugal a non seulement réprimé son problème de drogue, mais il a créé une société plus saine. Alex Steven, président de la Société internationale d'études de la politique pharmaceutique, a déclaré « La principale leçon à tirer, c'est que la dépénalisation de la drogue ne conduit pas nécessairement à la catastrophe et elle libère des ressources pour offrir des réponses plus efficaces aux problèmes que la consommation de drogue engendre. » Il y a quelque chose à apprendre du traitement de la consommation de drogue comme une maladie physique et mentale. Considérant les résultats de la politique portugaise par rapport à l'approche américaine, alors que les taux d'utilisation d'incarcération et de maladie au Portugal ont tous baissé, la consommation de drogue aux États-Unis est demeurée relativement inchangée depuis une dizaine d'années. Chaque année, 1,5 million de personnes sont arrêtées et mises en examen pour des faits liés à la drogue, donc 80% pour simple possession. Et je rajoute, en m'appuyant sur l'article de la semaine dernière, La couleur de la justice, d'après le travail de Michel Alexander, qui nous explique que aux États-Unis, 90% des personnes arrêtées sont noires. Voilà. Donc là, sur ces 1,5 million de personnes arrêtées et mises en examen pour des faits liés aux drogues, et donc 80% pour simple possession, eh bien, sur ces 80%, 90% de ces 80% sont noirs. Et sont 25 fois plus arrêtés et poursuivis et emprisonnés que les blancs. Voilà. Alors que les blancs en consomment et en traficotent aussi. Donc, voilà. Ça, c'est pas dit dans l'article, mais je le rajoute. La moitié de toutes les incarcérations fédérales est reliée aux drogues. Peu de gens pensent que l'usage de drogue n'est pas un problème. Sans aucun doute, sa consommation pose des problèmes pour la santé publique et détruit de nombreuses vies. Cependant, lorsqu'on examine l'efficacité des politiques en matière de drogue, le modèle américain n'est rien de moins qu'un échec total. Il est temps de regarder les alternatives, comme illustre le cas portugais. Les politiques dites radicales peuvent être parfaitement raisonnables. Donc effectivement, encore une fois, cet article en rajoute une couche pour dire que bah, c'est un vrai problème. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils oublient de mentionner que quand même cette répression, cette prohibition américaine malheureusement s'abat essentiellement sur les Afro-Américains. Et ce qui fait donc dire à juste titre à Michel Alexander que la loi sur les drogues aux États-Unis, c'est le nouveau Jim Crow, du nom du politicien qui avait mis en place les lois de ségrégation raciale dans les années 50 aux États-Unis. Et dans cet ouvrage, donc, elle raconte que la loi sur les drogues est le nouveau Jim Crow et que les lois de ségrégation raciale se sont métamorphosées et qu'elles se sont mises en place autour des lois sur les drogues et qui provoquent donc l'enfermement ultra régulier et classique des Afro-Américains. Voilà. Et donc le livre est traduit en français et qui s'appelle « La couleur de la justice ». Voilà, voilà, on va bientôt s'arrêter là. Je voulais vous parler, pour terminer vraiment, de cet article qui est paru dans Newsweed et dont on a très très peu parlé également. C'est au sujet du cannabis thérapeutique et c'était intitulé cet article de Newsweed. Les médecins allemands se réjouissent de la légalisation du cannabis médical. Voilà, il y en a beaucoup qui sont heureux, autant donc les patients que les médecins. Parce que bah, voilà, ça va leur permettre quand même de traiter de plus en plus de malades. Faut quand même savoir que il y avait à peu près 1000 personnes qui avaient décroché le droit de se soigner avec du cannabis et certaines quand même sont décédées avant d'avoir pu voir leur demande traitée, hein. Seules 1000 personnes, c'était pas beaucoup, parce que en Allemagne comme en France pendant longtemps, bon, même encore toujours aujourd'hui, hein, finalement, vu que le Sativex on ne peut pas l'obtenir dans les pharmacies, que vu qu'on n'a toujours pas le droit de cultiver son chanvre thérapeutique en France, et même s'il contient peu de THC avec beaucoup de CBD, je suis pas certain que ce soit légal. Voilà, en tout cas, il y avait beaucoup de malades donc qui souffraient, qui pouvaient pas se procurer de cannabis thérapeutique. Et bien maintenant, il faut savoir que l'assurance de santé allemande couvre les traitements du cannabis aujourd'hui. Et pour contrôler la distribution du cannabis médical, une agence du cannabis a été créée sous l'égide de l'Institut fédéral des médicaments et des appareils médicaux. Voilà. Une agence du cannabis a été créée. C'est un peu ce que demandent les personnes qui ont rédigé le rapport Terra Nova. Ils demandent la mise en place d'une agence de régulation du cannabis, l'ARCA, qui serait calquée sur l'agence de régulation des jeux en ligne, l'ARGEL. En tout cas, là, ils ont mis en place une agence du cannabis. Ils disent pas thérapeutique, mais une agence du cannabis, en tout cas, qui s'occupe de la question thérapeutique. Et les médecins allemands sont aujourd'hui en première ligne pour déterminer qui peut se voir prescrire du cannabis ou pas, même si une liste de maladies officielles a été dressée par l'État. Il faut savoir quand même qu'en 2016, écoutez bien, l'Allemagne a importé 170 kilos de cannabis à des fins médicales, c'est-à-dire le double de l'année précédente. Le pays continuera à importer du cannabis néerlandais ou canadien, jusqu'à avoir une filière de production en place. Joseph Mirtschow, qui est un expert en addiction de l'association médicale allemande, dit « Je prédis une certaine augmentation de cette thérapie, bien qu'il ne soit pas clair de déterminer jusque dans quelle mesure cela ira. En tant que communauté médicale, nous nous félicitons du fait que les possibilités thérapeutiques aient été élargies et d'ajouter, à propos de l'éventualité d'une légalisation du cannabis, pour un usage récréatif, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, selon les études réalisées, que le cannabis n'est pas sans risque. » Si quelqu'un consomme du cannabis pendant longtemps en étant adolescent ou jeune adulte, il y a des effets négatifs. Mais il n'est pas clair si la légalisation amène plus de protection que lorsqu'il est illégal. Voilà. En tout cas, les associations cannabiques allemandes continuent de demander, elles, plus d'informations sur la manière de décrocher des licences de production et de distribution, et notamment sur quelles variétés seront disponibles à l'avenir et quelles quantités devront être produites pour faire émerger une nouvelle puissance européenne du cannabis, point d'interrogation. Voilà, nous allons nous quitter sur cette bonne note germanique. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, pour un nouveau Cannabis Circus, encore une fois, toujours à la même heure, de 21h à 22h. Et puis maintenant, à 22h comme tous les lundis, après Cannabis Circus, c'est Chasseur de Sons. Voilà, allez, à la semaine prochaine, au revoir.